VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La conférence mondiale de protection de la faune qui s'est achevée mardi à Johannesburg a renforcé la protection d'espèces menacées comme les requins et les pangolins et écarté les appels à la légalisation de certains commerces pour enrayer le braconnage. Les décisions prises lors de cette réunion triennale ont changé la donne. Se sont globalement félicités les ONG de défense des animaux. Au Burkina Faso, les journalistes des médias publics et du service d'information du gouvernement ont entamé une deuxième grève qui dure 72 heures afin de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Le point tout de suite à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Pour cette deuxième grève du genre, les travailleurs des médias publics et du service d'information du gouvernement ont à nouveau déserté les bureaux et salles de rédaction pour appliquer par centaines au siège du Citoyen le quotidien d'État. Ils entendent ainsi intensifier l'interpellation du gouvernement burkinabé sur le respect des textes votés en 2015 sous la transition politique et qui tardent à être mis en œuvre, le cas échéant, à prendre des mesures transitoires pour améliorer les conditions de vie des hommes et femmes des médias publics. Sidiki Dramé, secrétaire général du syndicat.
Dans tous les cas, nous restons ouverts à tout dialogue qui peut être fructueux. Fructueux, c'est quoi ? C'est des propositions concrètes par rapport à ce que demandent les travailleurs des médias. Il faut que ce soit quand même des propositions qui puissent permettre aux journalistes et techniciens, les travailleurs des médias, de pouvoir se prendre en charge, d'être des hommes assez autonomes sur le plan financier pour éviter les tentations qui peuvent salir le travail d'un homme de médias.
Les travailleurs auraient, selon le président, suivi à presque 100% ce débrayage de 72 heures qui prend fin à minuit ce soir. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La campagne électorale pour les législatives prévues vendredi au Maroc se déroule dans un climat positif, a estimé le ministre marocain de l'Intérieur, Mohamed Assad, qui a réaffirmé sa volonté d'organiser un scrutin intègre et transparent. Depuis le 24 septembre, 9100 meetings, rencontres et réunions publiques se sont tenus avec la présence d'environ 540 000 personnes, soit deux fois plus que lors de la campagne des législatives de 2011, a précisé M. Assad, cité par un communiqué de son ministère. 110 plaintes ont été soumises à l'administration et 77 ont été déposées devant la justice, dont 51 ont été classées sans suite selon le même texte. De passage à New York, le président comorien Azali Assoumani a évoqué la question des migrations dans le pays. Il a notamment parlé du cas des Comoriens se rendant dans l'île française de Mayotte. On écoute le chef de l'État comorien.
Ce n'est pas de l'immigration, c'est des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Malheureusement, cette île de Mayotte qui est restée sous l'administration française fait que maintenant, avec son appel malheureusement le visa Balladur qui nous a imposé un visa depuis 1994, fait que pour aller à Mayotte, il faut un visa. Donc le visa, on l'a pas, même si on le demande. Bon, il y a d'autres qui préfèrent prendre ce qu'on appelle chez nous les kosa-kosa, c'est-à-dire les pirogues, hein, pour aller à Mayotte, au péril de leur vie. Hein. Effectivement aussi, la PAF mahoraise ne facilite pas la tâche. Et là, c'est ce problème que j'ai voulu évoquer, donc le problème de l'immigration et le problème de Mayotte. Et puis pour terminer, c'est que les migrants en Europe, effectivement, c'est des gens qui se déplacent parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays, l'insécurité, la guerre et tout ça, ils se déplacent, pas par plaisir qu'ils se déplacent. Donc on a intérêt à résoudre le problème un peu en amont, hein, pour éviter à ce que ces gens-là se déplacent.
Assoumani Azali, le chef de l'État comorien. Le prix Nobel de chimie a été conjointement attribué ce mercredi au Français Jean-Pierre Sauvage, au Britannique Fraser Studdart et au Néerlandais Bernard Feringa, inventeur de minuscules machines moléculaires. Les trois chercheurs à l'honneur ont amené les systèmes moléculaires vers des états où, remplis d'énergie, leurs mouvements peuvent être contrôlés, a expliqué le jury du Nobel.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
Présidentielle américaine, les colistiers de Donald Trump et Hillary Clinton se sont affrontés mardi soir lors d'un débat à couteau tiré, s'opposant sur leurs idées et leurs visions dans ce qui était la première occasion pour des millions d'Américains de découvrir les deux candidats à la vice-présidence. Le débat opposait le gouverneur républicain de l'Indiana, Mike Pence, 57 ans, et le sénateur démocrate de Virginie, Tim Kaine, âgé de 58 ans, deux politiciens expérimentés mais peu connus. Ils se sont vivement opposés sur l'économie, la sécurité, l'immigration, le terrorisme et la politique étrangère. Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville tire les leçons de ce débat.
C'était un débat très intéressant, beaucoup d'arguments des deux côtés.
Alors, des deux candidats, qui vous a paru le plus pertinent?
Je pense que Pence était plus pertinent, vraiment. Il a l'air d'être plus décontracté, il parle avec plus de dignité, il a l'air d'être plus présidentiel, je crois, que Kaine, qui a tout le temps interrompu Pence. Et qui était un peu nerveux, à mon avis. Il était une espèce de chien d'attaque. Et là, il a assez bien réussi en posant des problèmes. Il a mis un peu Trump sur le côté défensif. Mais quand même, Trump a assez bien répondu.
Alors, à qui bénéficie donc ce débat?
Alors, probablement personne. Les débats vice-présidentiels ne sont pas très, très importants. Et ni l'un ni l'autre a commis une erreur grave. Ça, c'est la chose importante. Ni l'un ni l'autre a fait une gaffe, si vous voulez. Mais je dirais que probablement le gagnant était Pence parce qu'il y a plus de républicains que de démocrates qui n'ont pas déjà décidé en faveur de leur candidat. Et donc Pence a réussi peut-être à rassurer un peu plus les républicains. Je pense que ça a aidé un peu la candidature de Trump.
Professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie, joint à Charlottesville. Syrie, Washington examine les options diplomatiques, militaires, de renseignement et économiques possibles pour faire face à la crise dans ce pays. C'est ce qu'a indiqué mardi l'un des porte-paroles du département d'État, tout en soulignant la nécessité d'un règlement politique. Les patrons des agences américaines spécialisées dans la sécurité et la politique étrangère doivent se réunir aujourd'hui. L'objectif, présenter au président Barack Obama différentes options d'action après l'abandon des pourparlers avec la Russie destinée à trouver une solution au conflit syrien qui a fait plus de 300 000 morts en 5 ans. Le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé aujourd'hui les insurgés talibans en Afghanistan de sceller une paix honorable avec les autorités de Kaboul pour assurer la reconstruction de ce pays en guerre depuis des décennies. Un règlement négocié avec le gouvernement afghan est le seul moyen de mettre un terme au combat, a plaidé John Kerry lors d'une conférence internationale de donateurs à Bruxelles, en Belgique. Le puissant ouragan Matthew a atteint Cuba cet après-midi, laissant au moins 7 morts en Haïti et en République dominicaine. Sur sa trajectoire destructrice, les États-Unis ou les autorités activaient état d'urgence et même ordre d'évacuation. Ses vents soufflent à 220 km/h et il se déplace à 15 km/h. On va terminer avec du football. La RD Congo s'est inclinée hier face au Kenya 0-1 en match amical au stade des Martyrs de Kinshasa. Écoutez la réaction de Jean-Florent Ibenge, le sélectionneur principal des Léopards de la RDC.
Une possession de ballon intéressante. Malheureusement, beaucoup d'occasions qu'on n'a pas su marquer. Je crois que quand on regarde les demi-temps, on a quasiment joué demi-terrain. Et on n'a pas été efficace devant le but. Et eux, ils sont sortis, on va dire, une ou deux fois et ils ont su marquer. Donc voilà, c'est une bonne leçon. Une bonne leçon par rapport au match de la Libye parce que je pense qu'on va être à peu près dans la même configuration. À nous d'être suffisamment rapide dans notre transmission du ballon pour justement désarçonner ce bloc un peu plus facilement.
Vous vous attendez à ce que la Libye joue de la même manière que les Kenyans ce soir?
Ben, je crois qu'ils vont venir ici, ils vont pas se jeter la fleur au fusil. Hein. Je pense qu'ils vont être un bon bloc derrière pour essayer de nous contrer. Donc à nous d'être aussi bons là-dessus, en allant chercher et être sur nos gardes pour ne pas se faire contrer.
La blessure de Bolingui, elle est grave?
Pour l'instant, on saura tout à l'heure avec toute la batterie des tests qu'on va lui faire, mais c'est dérangeant.
Le sélectionneur de la RD Congo au micro de Thierry Kabundi de Top Congo FM. Le prochain rendez-vous pour la RDC, c'est le samedi 8 octobre 2016 contre la Libye en éliminatoire de la Coupe du Monde. Jean-Roger Bion à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.